Moi, j'ai pas de mal au café oriental. J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de vous remercier au plus de l'engagement. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez sur Okapi, bienvenue dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. L'année 2016 est une année électorale en Afrique, environ un tiers des pays du continent, dont la RDC, devrait organiser les élections générales. Au Bénin, le principe de l'alternance a été respecté après la présidentielle du 20 mars dernier. Au Niger, la présidentielle s'est tenue dans les délais constitutionnels en l'absence du candidat de l'opposition détenu en prison. Au Congo-Brazzaville, le scrutin présidentiel a eu lieu dans un climat tendu selon l'opposition. Malgré le contexte de crise, il s'est signalé que les élections en République centrafricaine ont connu un aboutissement sans contestation. Certains observateurs estiment que la RDC, qui amorce constitutionnellement le dernier virage de son cycle électoral, devra tirer les leçons de l'aboutissement de ces différents processus. Qu'en pensez-vous? Participez à ce débat en direct au 081-890-6315. Rejoignez-nous aussi à l'adresse pa@radiocapi.net. Déposez également vos commentaires sur la page Facebook de notre Parole aux auditeurs. Merci à vous tous qui nous écoutez maintenant à l'étranger sur www.radiocapi.net. Merci aussi à toute l'équipe qui produit cette émission. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons en ligne Madame Honorable Béatrice Loméa, qui est un des communicants de la majorité présidentielle. Honorable Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi le sommaire de cette émission où nous avons annoncé la thématique du jour. Nous parlons des élections en Afrique. Donc l'Afrique 2016, c'est une année électorale et nous avons assisté à des élections qui ont été organisées au Niger, au Bénin, au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso, en RCA. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la RDC qui est en train d'amorcer en fait le dernier virage de son processus ou de cycle électoral a quand même des leçons à tirer de différents processus auxquels nous avons assisté?
Merci beaucoup, J.R. Je crois qu'effectivement, la République démocratique du Congo, qui est dans une année électorale aussi en principe, je crois que tire beaucoup de leçons de toutes ces élections qui se tiennent dans la région. Et je crois que la première leçon à retenir, c'est que les élections, c'est vrai que les élections sont une nécessité puisqu'elles représentent une respiration de la démocratie. Mais il faut noter que ces élections ne sont pas une fin en soi. Mais aussi, il faut dire que cette démocratie, en réalité, il n'y a pas de prototype de démocratie pour tous les États, pour ce que nous avons vu. C'est vrai que ces élections, pour certaines, se sont tenues lorsqu'il y a eu la fin du deuxième mandat. L'autre, c'est un premier mandat, mais d'autres se tiennent après des référendums où la population a levé des options majeures sur ce qui apparaissait comme des articles verrouillés ou intangibles dans leur constitution. Et donc, nous disons que la leçon à tirer est aussi le fait qu'effectivement, on est en train d'assister à un fait que ces articles qui constituaient jusque-là des points intangibles dans des constitutions tombent face à la lucidité des acteurs politiques et des populations qui considèrent que c'est vrai que nous devons organiser des élections pour faire respirer la démocratie, mais il faudrait pas s'accrocher à ces notions lorsqu'on est en face des dirigeants qui rassurent la nation.
Alors, on sait que le Bénin est compté parmi les modèles aujourd'hui des nations qui constituent en fait des exemples en matière de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est vrai que c'est en Afrique, c'est pas de l'Afrique, c'est un continent où des exemples en cette matière et sont si rares pour que ceux qui font exception ne méritent pas d'être cités. Mais voilà, alors, mais aujourd'hui, on a quand même le courage de citer le Bénin comme exemple de l'alternance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC peut capitaliser l'exemple du Bénin?
Oui, ce que je disais tout à l'heure, on peut capitaliser, mais la situation de la République démocratique du Congo n'est pas celle du Bénin. Et donc, tout en félicitant, nous disons que nous devons adapter la démocratie au contexte qui est le nôtre. Et donc, lorsqu'on fait la comparaison, ce n'est pas aussi tout à fait exact, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalité du Bénin reste celle du Bénin, et puis nous sommes la République démocratique du Congo. Tout en félicitant, nous disons que nous allons avancer avec la démocratie, en tenant bien sûr compte des intérêts supérieurs de notre.
Alors, qu'est-ce qui nous différencie de Bénin, par exemple, en matière de démocratie ou en matière de contexte, disons, dans le contexte sociopolitique?
Oui, dans le contexte sociopolitique, il faut considérer, par exemple, que notre pays, c'est un sous-continent, on ne le dira jamais assez. Vous savez que chaque fois qu'il y a, par exemple, un mandat qui commence, le plus souvent, on est secoué par des guerres, et puisque vous allez savoir que la convoitise qui a sur notre pays ne date pas d'aujourd'hui, et n'a pas encore dit son dénouement, c'est dire que la gestion du mandat souvent est confrontée à des impératifs qui ne sont pas nécessairement ceux qui peuvent se trouver au Bénin. Et donc il faut faire avec, lorsque nous faisons la gestion du mandat chez nous, nous tenons compte de tout ce qu'il y a comme élément qui arrive en cours de gestion du mandat et qui parfois fait que lorsque nous arrivons à la fin, il faut faire une évaluation compte tenu de ce contexte-là. Il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte, et lorsque nous disons par exemple aujourd'hui que pour les élections nous sommes confrontés à certaines contraintes, il y a la réalité qui est purement congolaise, qu'on ne peut vraiment pas identifier à celle qui est du Bénin.
Alors, pour certains observateurs, la RDC a en tout cas quasiment copié le modèle du Bénin dans beaucoup de choses. Si nous partons avec la conférence nationale souveraine, nous sommes là au début des années 80, 90, et puis après, avec la CENA, Commission électorale nationale autonome en Bénin, nous avons opté pour la CENI, comme tant d'autres pays africains également. Donc c'est comme si nous restons dans les modèles, c'est ce qui fait que certains observateurs vont même plus loin pour dire que voilà, nous devons tirer exactement les modèles du Bénin pour entrer finalement à l'alternance.
Oui, mais je crois que si on a constaté qu'effectivement il y a beaucoup de points quand même, moi je me dis à ce stade, il n'y a même pas lieu de dire qu'on est assez, puisque bon, on parle là des élections, c'est vrai que nous aussi, je crois que nous sommes dans la droite ligne de l'organisation des élections chez nous, et donc je ne crois pas qu'il y a vraiment un élément à ce stade qui nous mette à porte à faux, et nous travaillons mais conformément aussi aux réajustements qui sont nécessaires par rapport à la réalité de notre pays.
Alors, quel regard portez-vous pour les élections qui se sont déroulées au Congo-Brazza ou encore au Niger où l'opposant se retrouvait en prison, malade, et au Congo-Brazza, l'opposition qui crie, en tout cas qui dénonce, qui fustige les élections qui ont été organisées sous tension, voilà, et puis RCA qui a organisé des élections avec un aboutissement sans contestation.
Bon, là je dis que chez nous les gens devraient plutôt féliciter, parce que lorsqu'on regarde par exemple ce qui concerne les droits de l'homme, c'est chez nous, vous savez que la liberté d'expression est vraiment garantie aujourd'hui, je crois que nous l'observons, et la possibilité est donnée à tous les acteurs politiques d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ce qui se passe au pays. Je crois que je ne vais pas trop entrer en détail à leur réalité, parce que c'est comme je l'ai dit, moi je veux plus m'attarder à ce qui se passe chez nous, mais je me félicite et je me dis qu'en tout cas l'opportunité est donnée à tous les acteurs politiques de dire ce qui pense, et je crois que nous sommes là, nous tous, et nous attendons que l'organe qui est chargé de nous organiser les élections nous dise ce qu'il faut faire dans les jours à venir.
Oui, mais la centrale électorale l'a déjà annoncé, a annoncé même des difficultés pour organiser les élections en cette année. Est-ce que vous continuez encore à croire que effectivement c'est faisable, les élections en cette année 2016?
Non, nous ne pouvons pas croire quelque chose qui est contraire à ce qu'a dit l'organe qui en charge les élections. C'est l'organe technique et nous ne sommes que politiques, et donc nous tous dépendons de ce que la commission électorale va dire, parce que la constitution dit qu'il faut que les élections qu'elle va organiser soient des élections régulières, et donc nous n'avons pas des avis à émettre, nous attendons et donc nous sommes là.
Alors, que vous inspire le discours du chef de l'État? Nous sommes, à la fin de l'année 2015, lorsqu'il annonce officiellement sur la télévision nationale la convocation d'un dialogue politique national inclusif, et il a même proposé à tous les acteurs congolais d'engager à l'instant même une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays, pour ne pas citer Congo-Brazza en face.
Oui, laisse dire que lui, c'est le père de la nation, c'est le garant de la République, et donc à chaque moment, le fait qu'il a la vision d'ensemble, il voit tous les signaux, les moments étaient indiqués pour qu'il interpelle toute la nation pour dire que nous voulons bien des élections. Mais je pense que face à ce qui vient devant nous, il était important qu'on se retrouve, qu'on échange, et c'est ce dialogue que nous attendons. Et je crois qu'il est vraiment dans son rôle de réguler le fonctionnement de la République. Et je pense qu'il est important et ça ne sert à rien que les gens puissent continuer à se cantonner parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre réalité demeure une réalité particulière congolaise. Mais lorsqu'on parle même de ce monde d'élection, vous voyez, nous avons un pays qui est en sous-continent. Il y a beaucoup d'options que nous devons aussi lever pour que nous soyons effectivement rassurés des élections qui seront transparentes, qui sont crédibles et acceptées par tout le monde.
La résolution 2277 évoque également le respect du délai constitutionnel quant aux élections en 2016. Que cela vous inspire?
Bon, je me dis que cette résolution n'est pas à porte à faux par rapport à ce que nous disons, parce que nous disons le délai constitutionnel, il faut considérer la constitution dans son ensemble du premier au dernier article, puisque là, l'attention peut se focaliser sur l'élection présidentielle. Nous nous disons que le problème a déjà été résolu, puisque l'article 70, comme nous le disons tous les jours, nous dit clairement que le chef de l'État reste en place tant qu'il n'y a pas l'installation effective de notre président élu. Et en même temps, ces élections ne relèvent pas de sa responsabilité. L'article 211 précise que c'est la Commission nationale électorale indépendante qui est en charge l'organisation de ces élections. Et donc là, nous ne faisons qu'expliquer, mais nous disons que les articles qui sont clairs s'appliquent, on n'a même pas à les interpréter. Et aussi, ce qui fait la confusion entre la fin du mandat et la vacance éventuelle qui aurait au sommet du pouvoir, nous disons qu'il y a une confusion, parce que le fait qui est relevé à l'article 61 de la Constitution, là où on parle des vacances, c'est le cas où un mandat est encore en cours d'exécution. Hein, c'est là où est-ce que le président se trouve dans une situation où il y a, par exemple, il présente sa démission, où il y a les décès qui interviennent, où il y a un empêchement définitif. L'empêchement définitif, c'est lié à la personne lorsque le mandat est en cours d'exécution. Ce qui est tout à fait différent de la fin du mandat qui a été réglé par l'article 70. Donc, nous disons que l'article qui parle de la fin du mandat du président doit être conjugué par le 211 qui donne l'organisation des élections en responsabilité de la Commission électorale nationale.
Voilà. Avant de passer la parole aux auditeurs, on avait évoqué tout à l'heure le cas de Benet qui avait dans sa constitution limité l'âge au plancher comme au plafond et celle même du nombre de mandats à deux. Et jusqu'à aujourd'hui, le Benet le respecte parce que c'est un article verrouillé. Et c'est le même cas chez nous avec des articles verrouillés qui parlent du mandat du chef de l'État et également de la vacance. Mais voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas s'en tenir, on ne peut pas tenir compte de ces articles verrouillés.
Oui, ça c'est l'exemple du Benin, mais quand vous prenez aussi les Congo Brazzaville juste à côté, il y avait aussi la limitation d'âge et de nombre de mandats. Mais ça était dans toute souveraineté, c'est la population congolaise qui estimait que nous avions encore un président qui nous rassurait, celui qui travaillait pour la paix, pour le développement du pays, et qui avait la réunion nous pour travailler avec les autres. Et on ne pouvait pas s'accrocher à ces articles dits intangibles et verrouillés, et ça a été fait à toute souveraineté. Je me dis que le moment venu, nous aussi, la République démocratique du Congo, nous allons décider conformément à notre situation, bien sûr en mettant en exergue l'intérêt suprême de la nation.
Voilà, nous rappelons que les articles qui ont subi la révision au niveau du Congo-Brazzaville n'étaient pas quand même verrouillés, madame.
Bien, même si c'est verrouillé chez nous, c'est comme on le dit, la constitution a été faite par les hommes pour le fonctionnement de la nation. Et donc, à un certain moment, en toute souveraineté, il nous appartient de décider ce que nous voulons. Et tout à l'heure, je voudrais aussi préciser la résolution que les gens agitent. Là, il faut bien la lire des Nations Unies. Vous savez, lorsqu'il y a question de souveraineté, la résolution exhorte le gouvernement de la République à un certain nombre de choses. Donc, je pense que nous sommes dans les bons.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
À partir du lundi 4 avril 2016, la grille de programme de Radio Capitale connaîtra quelques ajustements. Indétrochable que la réalité de Kinshasa sera proposée tous les jours de 16h à 17h sur l'antenne locale.
deux nouveaux journaux seront désormais proposés respectivement à 15h et 22h en semaine et à 15h et 20h le week-end. Des nouvelles chroniques sur la santé, l'humour, la jeunesse, l'environnement, la justice et les droits. Radio Capi, encore plus près de vous, pour mieux vous servir.
Voilà, nous recevons Maître Adrien qui est à Canada. C'est le premier auditeur qui va ouvrir les débats. Madame l'honorable Béatrice Lobéa, nous vous gardons en ligne. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Gérard Lumbembo. Bonjour à Madame l'honorable.
Alors, l'année 2016 est une année électorale en Afrique. Nous avons suivi les élections qui ont été organisées, ça et là, au Bénin, au Niger, au Congo-Brazza, au Burkina Faso, à RTA. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez comme les autres que nous, la RDC, qui amorce constitutionnellement le dernier virage de son cycle électoral, devra tirer les leçons de l'aboutissement de ces différents processus?
Merci beaucoup, Gérard, de la parole que vous m'accordez. Je pense que c'est une occasion offerte à notre pays d'imiter ces pays-là, surtout le cas du Bénin, hein, parce que c'est un pays vraiment qui ne cesse d'honorer toute l'Afrique en matière démocratique, parce que dans ce pays, il y a certains discours. Lorsqu'on fait allusion à la démocratie occidentale ou bien européenne, on dit non, écoutez, l'Afrique a sa réalité, mais le Bénin est là, le Bénin est en train de faire donc preuve d'une maturité et honneur pour tous les Africains que nous sommes. Moi, je pense que notre pays devrait saisir cette opportunité pour essayer de relever la tête au lieu donc de faire comme les discours que je venais d'entendre tout à l'heure de la part de Madame l'Honorable. La République démocratique du Congo n'a pas une réalité différente du Bénin. D'ailleurs, c'est quand même une honte lorsqu'on veut faire valoir un pays comme Bénin, c'est la République démocratique du Congo. Un pays sous-continent, certes, mais on ne dit pas les richesses que nous avons par rapport au Bénin. Le Bénin, ce n'est rien, permettez-moi les termes. Et puis, deuxièmement, je pense que si nous revenons par rapport à ce que l'honorable venait de dire, l'article 70 n'a pas sa raison d'être, sauf si on veut tirer les draps de son côté, ça ne peut pas même s'appliquer. Donc le chef de l'État reste en poste jusqu'à l'installation. C'est lorsque il y a déjà une élection, donc il y a un président connu, et ce président-là ne peut pas dire à l'actuel, non, quittez, moi je suis déjà là, non. C'est là que cet article doit s'appliquer, mais si on n'organise pas les élections, on veut se cacher derrière cet article-là. Ça n'a pas d'application. Troisièmement, il ne faut pas que dans ce pays qu'on puisse prendre l'exemple d'un pays comme le Congo-Brazza, parce que je suis encore l'honorable dire, non, la population a dit que le président avait beaucoup à faire, parce que si cela était le cas, le président Yahi Boni et du Bénin resterait au pouvoir, parce qu'il est venu en 2006, il a respecté ce que sa constitution disait, deux mandats, point trait, et puis il a organisé les élections. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui est venue, parce que j'ai toujours dit, il n'existe pas des hommes providentiels. Hein, chacun vient avec son intelligence, il met en place, et l'autre vient, le complète aussi, et ainsi va la vie. Et surtout que ce pays appartient à tout le monde. Ce pays n'appartient pas seulement à la majorité, là où on peut dire, c'est là qu'il y a la compétence, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Et puis, la réalité brazzavilloise, ou donc la réalité du Congo en face, n'est pas à comparer avec la réalité chinoise ou congolaise de la RDC. Ce sont deux réalités différentes. Vous avez vous-même, Gérard, épinglé ça. Lorsque nous lisons, nous jetons un coup d'œil à la constitution brazzavilloise, cette constitution, nulle part, n'avait verrouillé certaines dispositions. C'est comme ça qu'on a estimé, on a profité pour organiser un référendum. Mais chez nous ici, l'article 220, c'est vraiment un véritable cadenas. On ne peut pas chercher n'importe quelle clé pour ouvrir. C'est ça la barrière. Donc, faire de telles comparaisons, ça ne sera pas du tout bon. Moi, je pense que notre pays a l'occasion de se rattraper. Mais pour y parvenir, il faut de la volonté politique. parce que même lorsqu'on dit non, la CENI a dit, non mais la CENI est utilisée, tout le monde sait que la CENI est utilisée par la majorité présidentielle. La majorité, lorsqu'elle s'abstient de ne pas financer la CENI, et qu'est-ce que la CENI peut faire? Et aujourd'hui, on vous dit, nous n'avons pas de commentaires à faire parce que la CENI a dit ceci, a dit cela, mais c'est quand même malheureux pour ce pays. Il faut y mettre la volonté politique et pour parvenir maintenant à l'organisation des élections, parce qu'à part cette organisation des élections, je me dis, quelle autre solution? Et Dieu merci ici, je m'en vais saluer aussi la communauté internationale au travers de sa dernière résolution, parce que oui, oui, c'est une résolution qui vient donc renforcer une fois de plus la constitution. Lorsqu'on attire l'attention des uns et des autres pour respecter le délai constitutionnel, moi je dis au moins une fois dans l'histoire, la communauté internationale a essayé de marcher ensemble avec la population congolaise. Ici, il n'est pas question d'une victoire d'un cas donc envers un autre. Non, ici c'est la nation congolaise. Et la communauté internationale a très bien réfléchi pour dire que si la RDC est déstabilisée, c'est toute l'Afrique qui ne sera pas vraiment en paix. Et c'est comme ça, autant mieux, donc mieux vaut prévenir que guérir, comme la communauté internationale l'a fait. Et de là, nous lançons maintenant un cri d'alarme auprès de la majorité présidentielle qui a donc la gestion de la chose publique. C'est vraiment qui...
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Adrien. Merci beaucoup, Maître Adrien. Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. Pour vous, la réalité, en fait, la RDC n'a pas une réalité différente du Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays, c'est vrai, Madame l'invitée l'a dit également. La RDC, c'est un sous-continent ou un continent, pays-continent. Vous avez demandé qu'on ne puisse pas prendre quand même l'exemple du Congo-Brazza. La constitution du Congo-Brazzaville est différente de la constitution de la RDC, qui compte des articles verrouillés, mais par contre, de l'autre côté, il n'en était pas le cas, donc il y avait possibilité d'aller même au référendum. Alors la CENI doit arrêter de jouer le jeu de la majorité. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé. Amos, vous êtes à Bukavu. Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gilles, bonjour à l'invité, bonjour au peuple congolais intéressant pour cette émission. En fait, si vous essayez d'analyser le propos de l'invité au studio, vous allez comprendre que le décor est planté pour pression de la majorité, parce que ce sont les mêmes discours que tous les cadres de la majorité présidentielle sont en train de tenir partout à travers la République pour ne pas respecter la Constitution et créer du chaos dans notre pays. Et je pense que si nous faisons une petite analyse de toutes les stratégies suicidaires du pouvoir en place, et là, pour ne pas les citer, je vois les tentatives de réviser la Constitution par certains cadres de la majorité présidentielle, la loi électorale qui a fait des victimes en janvier 2015, le démembrement pressé de nouvelles provinces, la déstabilisation de la CENI par la même majorité au pouvoir, le fameux dialogue envisagé et que madame venait d'invoquer, qui est une stratégie pour faire de l'État.
Oui, Amos, est-ce que nous avons des leçons à tirer de l'aboutissement de ces différents processus au Niger, au Bénin, au Burkina Faso, en RCA et au Congo-Brazzaville?
Moi, je pense que la meilleure leçon serait celle du Bénin. La meilleure leçon serait celle du Bénin, parce que quand madame dit non, le Congo c'est un pays à superficie d'un continent. Mais ça, c'est une stratégie qui ne tient pas debout, ça, c'est une analyse qui ne tient pas debout. Pourquoi je le dis? Parce que même si le Congo est vaste, mais nous savons aussi que le Congo c'est un pays énormément riche. Et à travers le Congo, toute l'Afrique peut s'élever et devenir une puissance internationale. Mais le fait que le Congo aujourd'hui est gouverné par des gens incompétents, des gens qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, voilà que la RDC
Je crois que nous devons faire la part des choses, Amos. Le respect de la Constitution, l'interprétation de la Constitution, nous devons carrément discuter cela avec la compétence, parce que ça encore, ça s'appelle débat quand même, hein. C'est discutable, la notion de la compétence, parce qu'on ne sait pas faire des jugements de valeur sur seulement la fait élection aujourd'hui, parce qu'il y a, je ne sais pas ce que vous qualifiez de manque de volonté politique pour organiser les élections, et cela prouve que les gens sont incompétents.
Merci bien, mais par rapport au sujet d'aujourd'hui, vous allez comprendre que ce que nous fustigeons, souvent les dirigeants africains ne veulent pas quitter le pouvoir et veulent souvent violer les textes qui régissent leur patrie, parce que pendant leur état au pouvoir, ils se mettent à violer les droits de l'homme, les pillages, les détournements. C'est pourquoi il va toujours s'éterniser.
Voilà, merci beaucoup à mon frère. Pour vous, pour vous, le modèle, c'est le Bénin. Il faut plutôt travailler pour l'alternance. Merci beaucoup. Maître Moussaka, vous êtes à l'Ubassi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Gér, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Vous avez la parole, maître Moussaka.
Merci beaucoup, monsieur Gér, de m'avoir accordé la parole. Vous savez, on imite chez les voisins ce qui est bon, monsieur Gér. Et ce qui est mauvais, on ne peut pas imiter, puisque si vous imitez, vous risquez de tomber dans le chaos. Et nous pouvons imiter le modèle de Bénin, puisque ils ont respecté les lois constitutionnelles. C'est ce qui doit se passer aussi chez nous. Puisque aujourd'hui, les élections ne vont pas se préparer à la veille. C'est-à-dire, c'est tout au long d'un mandat qu'un dirigeant responsable doit commencer, dès le début du mandat, à prévenir les gens comme est-ce que lorsqu'on a, on va arriver au terme du mandat, on va organiser les élections. Ce n'est pas à la veille de la fin du mandat qu'on doit dire qu'on doit prévoir maintenant chercher l'argent pour organiser les élections, monsieur Gilles. Alors, ce que nous devons demander à nos autorités, c'est d'avoir la conscience politique et de voir en premier lieu l'intérêt de la population congolaise, monsieur Gilles. Et de bannir l'intérêt égoïste. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas imiter d'autres modèles là, puisque Congo Brazza fait ceci, cela, puisque tel pays a fait ceci, cela. Au moment où vous connaissez, nous suivons, nous tous, les conséquences de ces pays-là qui violent leur constitution. Mais bien qu'ils organisent les élections, ils passent au pouvoir, mais les conséquences, nous les suivons et nous les voyons. Alors, c'est ce que nous, dans notre pays, nous devons prévenir pour ne pas tomber dans les chaos des autres, nous devons éviter le modèle de Bénin afin que l'intérêt de la population soit sauvegardé, M. Gilles.
Merci beaucoup, Maître Moussaka. Comme Amos, vous souhaitez que nous puissions prendre comme modèle, pour modèle, donc le Bénin en matière des élections et de la bonne gouvernance. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous partagez cet avis? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gér. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à l'invité. Moi, je pense que l'Afrique, en général, est mal partie dans la mesure où il copie tout de l'Occident.
Oui, Félicien, si vous avez votre poste récepteur tout autour de vous, priez quand même de l'éteindre, comme ça on va s'écouter par téléphone.
Ah oui, d'accord.
Voilà, allez.
Oui, je disais que l'Afrique est mal partie dans la mesure où il copie tout de l'Occident. Et la démocratie à l'occidental ne tient pas facilement en Afrique. Et pour preuve, vous constatez vous-même qu'il y a plus de 50 ans depuis que la majorité des pays africains ont accédé à l'indépendance. Mais il y en a combien qui s'engagent réellement sur la voie de la démocratie? Moi, je pense que l'erreur est partie de là. Et chaque pays, chaque continent a ses valeurs. Et nous avons la démocratie partout. Et quand vous comparez, le Japon est un pays démocratique. Le système politique du Japon, c'est pas celui de l'Allemagne, c'est pas celui de la France, et c'est pas celui des États-Unis. Et l'Inde, c'est un pays démocratique. Vous comparez tout, vous verrez que, en tout cas, la démocratie, il y a certaines choses qui sont presque les mêmes, mais il y a quand même des particularités pour chaque pays.
Mais Félicien, certains observateurs, donnent de la voix pour en fait faire quand même des réflexions autrement, en disant que même dans un régime dictatorial, la situation n'a pas été meilleure que ça, comme vous le pensez. Quand vous fustigez la démocratie aujourd'hui à la manière de l'Occident ou encore à l'européenne, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui nous adaptons notre démocratie à nous, ça doit amener quand même à apporter des solutions, ou peut-être c'est un problème d'homme?
Il y a un problème d'homme d'abord, il y a un problème d'homme, parce que ici nous mettons l'accent de notre démocratie, nous la basons sur les élections. Mais les élections, c'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est pas ça la solution pour le développement d'un pays. Parce que on fait des élections, mais on regarde les élections, quand le mandat est terminé, il faut que le premier parte et que l'autre prenne tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation?
Mais oui, mais la question, pourquoi ce débat autour de l'inopportunité des élections ou encore de moins importance de la non importance des élections n'a pas eu lieu. Donc en fait cette question n'a pas eu lieu en 2006, justement en 2016. Au moment où on a le mandat, par exemple, de, on est à la fin de ce cycle électoral.
Moi, j'ai commencé à réclamer que les gens se mettent autour d'une table en 2011, quand j'ai vu que les élections qu'on était en train d'organiser, ce n'était pas des élections, c'était une parodie d'élections. Il n'y avait rien de bon et ça n'apportait rien. Quand le peuple lui-même qui est en train de voter ne sait pas pourquoi il vote parce qu'on lui a donné quelque chose, et tout ça, il va, sa voix, il donne le pouvoir à quelqu'un qui va rien faire, c'est parce qu'il lui a donné quelque chose. Et moi, je pense que les difficultés que nous avons en Afrique, c'est surtout quand le vainqueur ne s'entend pas avec le vaincu, c'est ça qui est un problème. Mais si on avait introduit dans nos constitutions que le vainqueur puisse gouverner avec le vaincu, et il y aurait moins de problèmes de
contestation. Le Félicien Obédé, nous avons vu le perdant a même appelé celui qui a gagné bien avant que la commission électorale ne puisse proclamer le résultat.
Mais il y a combien de pays en Afrique, et il y a combien qui font ça, c'est ça le problème. Le Bénin, c'est un exemple. Mais il faut prendre.
Au Sénégal. Au Sénégal,
le Bénin, tout ça, comparé au nombre de pays qui sont en Afrique, combien qui sont en train de faire ça.
Pourquoi ne pas aujourd'hui l'exemple du Sénégal, du Bénin, de Burkina Faso?
Oui, mais c'est ça, je demande. Le Burkina Faso, c'est même pas par exemple. Le Burkina Faso passait par une transition. Après, il y a beaucoup de problèmes qu'il y a eu là-bas, comme en Centrafrique. Ça n'allons pas prendre. Donc, prenons les pays qui ont des élections sans problème, le Bénin, le Sénégal, et tout ça, vous verrez.
Merci beaucoup.
Pas nombreux.
Merci beaucoup, Félicia. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Madame l'honorable Béatrice Noméa, vous êtes les communicants de la majorité. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Mais aujourd'hui, le souci, c'est de répondre au fait à cette question. Pourquoi n'avoir pas eu le temps d'organiser les élections? Vous avez dit que le chef de l'État, disons, n'est pas responsable aujourd'hui si jamais les élections ne sont pas organisées. Mais pourtant, tout le monde sait que le chef de l'État est le garant de la Constitution.
Bien, JR, il est le garant de la Constitution, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai, lorsqu'on a un mandat, toutes les situations qui arrivent en cours de gestion de mandat, parfois ne sont pas prévues à l'avance. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous sortions des élections, on a été déstabilisés à l'est de la guerre des M23, vous allez vous souvenir, et peut-être ceux qui n'ont jamais géré ne peuvent pas se représenter, ceux qui coûtent la guerre. Mais aussi, il faut dire que lorsque certains disent que chaque année, il y avait un montant qui était prévu pour les élections, mais il faut savoir que le budget, lorsque nous l'adoptons, lorsqu'il est promulgué, ce sont des prévisions. Il ne faut pas oublier que ce budget, parfois, c'est exécuté autour de 50-60%, donc il ne faut pas considérer que lorsqu'on dit, par exemple, qu'on devait mettre de côté 200 millions ou 250, qu'il y avait de l'argent quelque part gardé, c'est du travail qui est fait au même moment qu'on doit se préparer pour les élections, on doit faire face à la guerre, on doit reconstruire le pays. Il y a beaucoup d'impératifs lorsqu'on gère, mais lorsqu'on ne gère pas, on n'a pas cette évidence-là. Donc, ce n'est pas une question qui a été faite de manière volontaire, c'est des réalités qui arrivent dans la gestion, mais lorsque c'est arrivé, en toute responsabilité, je crois que l'essentiel, c'est de trouver des voies, des sorties qui préservent la paix et la stabilité au pays.
Et bien alors, quel est aujourd'hui la vision, le regard, en fait, de la majorité? Parce qu'il nous reste 5 mois. Y aura-t-il élection ou pas?
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là, la majorité n'est qu'acteur comme les autres parties prenantes aux élections aussi. Et ça, on ne peut pas contester à la Commission nationale électorale indépendante ses pouvoirs d'organiser les élections. Donc nous, respectueuses de la loi, nous attendons, nous restons accrochés à ce qui va nous être donné par la CENICOM programme. Oui. Mais avant de terminer, je voudrais préciser que tout à l'heure, j'ai suivi des compatriotes lorsque j'ai suivi Maître Adrien. C'est vrai, à un certain moment, il accepte qu'on fasse un peu comme le Bénin, mais quelque part, il dit non, il ne faut pas faire comme Brazzaville, comme Congo d'Afas. C'est effectivement reconnaître que nos réalités ne peuvent pas être identiques à celles des pays qu'on est en train d'évoquer. Mais aussi l'article 70. Aujourd'hui, nous disons que ça apparaît clairement comme un acharnement contre une personne. Tout ce que nous disons, si le Congolais était tellement soucié du respect de la Constitution, mais on allait veiller effectivement à ce que les autres aussi, ceux qui sont là pour cela, les députés provinciaux ne soient plus là. Mais ils sont là, ils sont légitimes parce que la loi les couvre aussi. Vous allez voir l'article 103, c'est ça qui dit que nos députés ou bien les sénateurs, tant qu'il n'y a pas d'autres élections, ces gens restent en place, on ne les a jamais contestés. Mais aujourd'hui, il y a une autre interprétation que les gens veulent donner à l'article 70, et là, ça prend une autre connotation, et ce n'est pas tout à fait mon AMN. De toutes les façons, j'ai dit, ton compatriote d'être temps, parce que les chefs de l'État le disent toujours. Ils ne sont jamais levés un seul jour pour dire qu'ils voulaient briguer un autre mandat. Donc, il faut être calme, l'alternance aura bien lieu, mais il ne faut pas oublier que cette alternance peut rester à la majorité. Il ne faut pas que les gens croient que quand on va aller aux élections, c'est seulement l'opposition qui gagne. Mais nous aussi, nous pouvons éviter l'espoir et rester, ce sera toujours l'alternance. Et ça, c'était pour répondre à quelques préoccupations des
alors,
et je crois.
Oui, madame l'honorable Béatrice, nous avons tous suivi l'actualité lorsque le Conseil de sécurité a évoqué la résolution 77. Il y a eu directement la réaction du gouvernement par la bouche de Ilias Gadja, qui est l'ambassadeur de la RDC à l'ONU, qui a dit ceci, en tout cas je le cite, tout en remerciant le Conseil pour cet acte à travers votre organe, l'Organisation des Nations Unies, mon gouvernement regrette et ne peut s'en cacher que la résolution ait choisi d'ignorer le point de vue pertinent de la RDC sur des questions essentielles qui engagent son avenir, notamment sur les élections, la lutte contre les groupes armés et la réduction de la force de la MONUSCO, a-t-il déclaré. Au sujet des élections, Ilias Gadja a affirmé que la RDC tenait, en tout cas je dis bien tenait, à l'organisation des élections libres et respectueuses des standards internationaux en matière d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. Donc tenait à l'organiser, mais solliciter une prolongation du mandat, en tout cas d'aller au-delà, pour organiser des élections crédibles. Et qu'aujourd'hui, avec la résolution qui est contraignante, disons, par sa bouche, on regrette que le Conseil des Nations Unies n'ait pas tenu compte de l'argumentaire posé ou déclaré par la RDC.
Oui, moi j'ai suivi aussi notre représentant, mais je pense que cette résolution, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, ça c'est vrai, c'était sa réaction, mais il faut relativiser. Parce que lorsque vous prenez cette résolution, en ce qui concerne la situation politique, hein, si vous avez la résolution avec vous, vous allez voir à la page 6 où on nous dit par exemple que le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, et on donne toutes ces qualifications. Je me dis en même temps, il n'y a pas de contrainte. Le Conseil de sécurité dit, vous devez organiser les élections, mais il faut tenir compte des conditions pour que nous ne voudrions pas qu'après ces élections, qu'il y ait des contestations qui vont encore ramener le pays dans le chaos. Je crois qu'il n'y a vraiment pas à s'alarmer outre mesure. Le Conseil de sécurité, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a une sorte d'obligation lorsqu'on parle par exemple des droits de l'homme, parce que là, c'est tout à fait normal. Nous avons ratifié un certain nombre de conventions internationales qui parfois sont au-dessus de nos lois. Mais à ce qui concerne les élections, ça a été clair. On exhorte, c'est une recommandation qui est faite au gouvernement avec toutes les autres parties concernées aux élections de créer des conditions des élections qui soient effectivement transparentes et crédibles. Je crois qu'il faut relativiser.
Des élections crédibles dans les délais constitutionnels.
Oui, c'est la constitutionnelle, je vous ai dit, il faut combiner tous les articles. Quand je parle de 70, il faut tenir compte de 211, où c'est la CENI qui a la responsabilité. Donc, lorsque la CENI estime que toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons des élections libres, transparentes, crédibles, acceptées, dont les résultats seront acceptés, nous ferons les élections. Là, la constitution sera respectée dans son intégralité.
La CENI évoque les moyens financiers et le législateur qui est l'autorité budgétaire, le gouvernement qui exécute, n'a pas de moyens.
Tout à l'heure, je vous ai expliqué, lorsque nous adoptons les budgets, même quand il est promulgué, c'est des prévisions. Tout à l'heure, j'ai relevé aussi un certain nombre de contextes imprévus qui arrivent à la gestion, mais je crois que nous sommes aussi vraiment engagés, nous, comme législateurs, et vous allez voir que déjà dans les budgets que nous avons adoptés et qui est en train d'être exécutés, nous avons donné plus de 500 millions. Donc, c'est un peu près de la moitié, mais je crois qu'il y a des affectations qui vont être faites puisque nous sommes conscients que nous devons passer par les élections pour renouveler la classe politique.
Nous allons prendre un auditeur qui nous a rejoint, Sylvain, il est à Bounia. Sylvain, bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditeurs de Radio Capi. Je voulais dire à l'entrée du jeu que c'est que cette question que vous avez posée, c'est une question personnelle. En fait, lorsqu'on fait l'apologie de toutes les élections qui sont faites au Congo-Brazzaville, et je vois aussi les Bénins, qui a respecté la volonté du peuple, Mais c'est aussi le Niger qui a fait que les élections soient là. Il faut que nous arrêtions une chose, c'est que en 2006, nous avons organisé les élections dans ce pays. Nous sommes partis d'une grande guerre de violence entre les Congolais. Et ça a permis à ce que nous puissions nous mettre en place, afin que nous puissions résoudre les problèmes de légitimité. Nous l'avions fait. Et c'était avec l'accompagnement de la communauté internationale. Un moment pour moi de remercier cette communauté internationale à travers la résolution 27-22-77 du 30 mars 2016, qui donne des grandes lignes à suivre par ce pays, qui est accompagné par elle, pourvu que nous ne puissions pas rechuter, n'est-ce pas, dans ce conflit éternel que nous avons connu dans ce pays. Qu'est-ce que je dis? Je salue Madame l'honorable, qui pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire ou copier le fait que les assemblées provinciales continuent à fonctionner depuis 2010 et qu'on n'a pas renouvelé et que le Sénat continuerait aussi à vivre comme s'il n'y avait pas de loi dans ce pays. Moi, j'ai dit que ce sont des cas de force majeure qu'on a commis, puisque, à un moment donné, on devait consommer ce qui n'est pas consommable. Mais à ce qui concerne le mandat du président actuel, écoutez, lorsque j'ai mis le message de la radio Capri sur Facebook, monsieur le journaliste, permettez-moi de vous dire, cela me permet d'entrer tout droitement dans une analyse de la géopolitique des conflictualités en Afrique centrale, de l'Est et en Afrique australe. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le reste du monde. Il y a des élections qui se font dans les délais constitutionnels et cela stabilise les institutions politiques de ce pays-là et cela permet que le peuple vive la paix et la quiétude. Mais pourquoi, après avoir organisé les élections de 2006 en RDC, nous sommes allés organiser les élections de 2011, sans beaucoup trop de contraintes, quand même la communauté internationale était là pour nous accompagner. Seulement aujourd'hui, en 2016, on dira, comme vous l'avez dit aussi, que le gouvernement n'a pas les moyens, monsieur le journaliste, je voudrais que cela soit retiré de la bouche des Congolais. Puisque je sais que depuis 2011 jusqu'à ce jour, l'État congolais a été toujours doté d'impliqués. Et lorsqu'on sait que nous avons un cycle électoral, c'est que lorsque nous sommes en 2011, on vote un budget. Arrivé en 2012, on vote un budget. 2013, 14 et 15, 16, on voit nos élections. Cela suppose déjà que nous avons mis tous les moyens possibles pour que les élections soient organisées. Aujourd'hui, j'ai dit ceci. Puisque les gens ne pensent pas à la petite histoire de la RDC, nous avons connu les crimes graves dans ce pays. Tout simplement parce que les gens ne voulaient pas respecter l'ordre établi. Je rappelle une chose. Pourquoi Mobutu a traîné l'aura de Grec après la guerre au Congo? C'est parce que Mobutu ne voulait pas respecter les lois du pays et Mobutu pensait être maître des circonstances et des temps en République d'Isaïe. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes sont des poches. C'est fait. Sentir dans les gens qui cherchent.
Alors, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'on fait pas? Quelle doit être la première motivation? Qu'est-ce qui justifie, au fait, aujourd'hui, la difficulté de la RDC de pouvoir aller tout droit vers l'alternance, comme c'est le cas au Sénégal, comme c'est le cas au Bénin? Est-ce que vous avez un peu de pistes de solution, vous, Sylvain?
Écoutez, monsieur Joël, j'ai toujours dit que si la politique est une question d'esprit, c'est aussi une question de la mentalité. Lorsqu'on est un acteur politique bien averti, bien éduqué, civilisé, moderne, on sait que lorsqu'on remplit une tâche publique, on est là au service de la nation, on n'est pas à son service. Et cela demande à ce qu'à tout moment, on essaie de valider la situation par rapport au temps qu'on a et on essaie de prévenir l'avenir. Ce qui nous manque, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est que lorsque on passe chef de l'État, on passe ministre, on pense que tout est fini. Et qu'on ne sait pas penser que demain, c'est quelqu'un d'autre qui doit jouer ce rôle-là. Donc, je dis ceci, une piste de solution est claire, c'est que nous devons nous rendre compte que si, en termes de notre constitution, si le gouvernement se sent incapable de pouvoir doter la CENI des moyens d'organisation des élections, le gouvernement doit tout simplement présenter sa démission devant le Parlement, ce qui est clair, ce qui est constitutionnel d'ailleurs à mon avis, et ce qui est démocratique. C'est ça aussi la civilisation politique. Et si l'on présente sa démission devant l'Assemblée nationale, donc le président du Sénat, je vais toujours répéter sa troisième réplique que je l'ai dit, le président du Sénat prendra la constitution et va proclamer tout simplement son entrée à jeu pour nous organiser les élections à travers une petite transition. De tout au plus 120 jours. Et à ce moment-là,
nous resterons dans les cadres constitutionnels.
Est-ce que vous pensez que ça nous éviterait, cette démarche, ça nous éviterait des contestations, comme c'est le cas dans d'autres pays?
Ça nous éviterait des contestations si certainement les gens sont convaincus que dans nos actes politiques, dans nos comportements politiques, nous devons rester dans les cadres constitutionnels. Et cela permettra qu'aujourd'hui, moi je le dis, monsieur le journaliste, avec tout en patriotique, c'est que cela nous permettra de pouvoir garantir la sérénité dans l'État congolais et la sécurité, et nous allons esquiver les violences.
Merci beaucoup, Sylvain.
Les cadres constitutionnels.
Merci beaucoup, Sylvain. On va prendre Bintou qui est à Kinshasa, au Congo central. Bintou, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la région Kinshasa.
Quel est votre avis par rapport à la thématique?
Bon, la première démarche, c'est que je vois que le gouvernement a raison de se plaindre et qu'on n'a pas pris son avis en compte par le conseil de sécurité. Étant donné que le souhait du gouvernement était de rester faire des choses après le départ de la MONUSCO, ce qui était normal pour leur souhait, puisque le gouvernement veut rester faire des choses sans qu'il y ait de l'aide de la communauté internationale. Bon, la communauté internationale, aussi de sa part, a raison de ne pas tenir compte du point de vue du gouvernement, étant donné que lorsque ça va brûler, c'est le même gouvernement congolais qui va encore recourir à la même communauté internationale pour se redéployer encore davantage au Congo afin de continuer. Étant donné que nous sommes des détenus d'assister depuis 56 ans, tout ce que nous avons fait, c'est toujours avec l'accompagnement de la communauté internationale depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Je doute fort que le gouvernement puisse donner un autre avis contraire à celui-là. Donc, c'était tout à fait normal, mais je pense que le gouvernement doit revoir ses calculs afin de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels, et cela permettra au pays d'avancer. Il faut pas que les gens puissent penser autre chose, que le pays doit continuer après. Dans notre pays, généralement, les gens considèrent que quand on est au pouvoir, on travaille pour le quotidien.
Oui, Bintou, quel est votre modèle? Alors, quel est votre modèle? Est-ce le Bénin, le Congo-Brazza, le Niger, le Burkina Faso, la RCA?
Je pense que le modèle, c'est l'alternance que nous cherchons. Que l'alternance se passe dans des conditions requises. L'alternance doit se faire normalement comme au Sénégal. Ça s'est fait normalement bien. Comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait en France. Ce n'est pas différent. Nous ne sommes pas, la RDC n'est pas différente de tous ces pays-là. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des personnes intègres et plus raisonnables. Nous savons comprendre les choses. Mais pourquoi ça doit se faire ailleurs et nous, ça ne se fait pas? Je pense que le régime actuel, avec le président en tête, le président c'est quelqu'un de compréhensible. J'espère que comme il est en train d'appliquer la Constitution, par exemple avec les 26 provinces, c'est ce qui prévoyait la Constitution. Je pense aussi qu'il va respecter la même Constitution au moment voulu. Et puisqu'on est en train de lui prêter des intentions par des personnes de gauche à droite, mais lui ne s'est pas encore prononcé. Mais le tout laisse croire qu'arrivé le 27 décembre, nous espérons que le président de la République va respecter la Constitution et va se retirer un homme d'État responsable qui peut respecter sur l'ensemble du pays.
Voilà, merci beaucoup, Bintou. L'exemple pour vous, c'est le Bénin, c'est le Sénégal, comme de ce qui se passe aussi ailleurs, pourquoi pas en Europe et puis aux États-Unis. Maître Fonville, vous êtes à l'Ambassade. Bonjour.
Bonjour, M. Gir. Bonjour à notre invité. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Sportifique.
Vous avez la parole, Maître Fonville.
Oui, par rapport à la thématique, M. Gir, moi je dirais que la lutte d'abord n'est pas exhaustive par rapport aux exemples qui sont la RDC qui est imitée. La RDC est appelée à imiter l'excellence et non pas la médiocrité. Un peuple libre, un peuple excellent ne peut imiter que l'excellence. Et cela doit faire la différence avec un peuple médiocre. Or, si je dis cela, monsieur Jouet, je vais citer un exemple, par exemple, le Nigeria, le Bénin, la RCA et même le Burkina Faso. Et d'ailleurs, par rapport à notre pays, je peux encore ajouter Haïti. Vous savez qu'avec Haïti, le président s'était retrouvé dans l'impossibilité d'organiser les élections. Il a démissionné et il a laissé la tâche à un autre intérimaire pour organiser les élections. Et d'ailleurs, les élections sont le subordonnement d'une démocratie. Là, nous ne pouvons pas dire, monsieur Gers, que si quelqu'un rassure la nation, il n'y a pas de dirigeant qui peut rassurer la nation, aussi longtemps que le mandat est bien fixé dans la Constitution, le mandat de 5 ans par une rigrable. Si on dirait que le dirigeant rassure aux États-Unis, c'est-à-dire qu'Obama pouvait aller au-delà, Là, nous disons non, nous n'avons pas besoin d'un fort, nous avons besoin d'une institution qui soit forte. Or, M. Giné, ici au Cap-Ouida, il y a quand même des décors étrangers pour aller aux élections. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui le Congo Brazza, nous suivons tous ensemble sur RFI, qui a la guerre au niveau des camps militaires. Nous ne pouvons pas suivre cet exemple-là, puisque les élections se sont passées dans un climat tendu. Aujourd'hui, au Cap-Ouida, nous assistons à des chars de combat qui sont promenés par-ci, par-là pour jouer avec l'esprit de la psychologie de la population. Or, la population est déjà bien préparée en ce qui concerne la psychose qu'on vient introduire dans les chefs de Katangé. Nous ne pourrons pas que nous puissions arriver à cela. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de demander au président de procéder à une passation civilisée du pouvoir le 19 décembre pour que la démocratie puisse continuer, puisque nous devons assister à la continuité de l'administration. Le chef de l'État, nous savons qu'il est très mal entouré, mais lui-même il est responsable de son futur, puisque nous savons qu'après le 19 décembre, le chef de l'État ne sera que sénateur à vie. La constitution est bien claire et bien précise. Alors nous voulons qu'avec l'exemple des pays comme le Bénin, nous puissions emboîter le pas. Et c'est cela, c'est le droit d'exemple. Et d'ailleurs, monsieur Gilles, je vous dirais que la RDC est un pays, est un demi-continent, et les intérêts de la communauté internationale place en RDC ne sont pas les intérêts que cette communauté place en RCA, place au Congo, Brazza, tout ça. Nous savons que pour avoir cette démocratie, la communauté internationale a pesé de beaucoup en ce qui concerne la RDC. Et pour avoir cette constitution, il y a eu le problème de San City. Et nous devons préserver les acquis de cette constitution.
Merci beaucoup.
En organisant les élections libres.
Merci beaucoup, maître Sonville. On va prendre le professeur Ignace avant de revenir à notre invitée, madame l'honorable Béatrice Loméa. Alors, professeur Ignace, vous êtes où exactement? Je sais que vous intervenez souvent.
C'est à Colésie.
À Colésie, voilà. Parce qu'on m'a, disons, sur les prompteurs, j'ai lu professeur Ignace Bénin. Je pensais que vous étiez au Bénin. Voilà. Professeur, alors, quelle est votre question?
Bon, Maria, comment je vais d'abord recadrer quelque chose par rapport à ce que l'invité venait de dire, madame, de tout à l'heure. C'est que, en management, quand on gère, hein, il s'agit de combiner la planification et l'improvisation pour arriver au résultat. Puisque il y a eu des présenteurs, la guerre, tout ceci, ça ce sont des échappatoires, il n'y a pas d'autre mot à dire. 5 ans durant, il fallait préparer les élections, mais sérieusement, c'est à 18 mois de la fin du mandat qu'on commence à nous dire qu'il y a eu des problèmes, il y a eu ceci, tout ça. Et on n'a pas atteint la moitié. Quand on n'atteint pas la moitié dans un exercice à l'école, c'est qu'on a échoué. Mais je voudrais dire que le bon modèle, l'idéal, c'est de savoir que dans tout pays, quand on est appelé à gérer, on a une pesanteur que l'on doit respecter, c'est la constitution qui constitue la volonté de la population. Que pour nous, le modèle à suivre, c'est pour tous ces pays-là qui se sont pliés aux exigences de la Constitution. C'est là le consensus. Aujourd'hui, il me semble que chez nous, la tendance est de vouloir analyser une situation éventuelle de guerre au lieu de réfléchir sur le peu de moyens que l'on a et à quoi il faut le consacrer pour organiser les élections et répondre aux aspirations de la population.
Merci beaucoup, professeur. Je reviens encore sur ce qu'a dit le chef de l'État, donc dans un discours retransmis samedi 28 novembre à la télévision nationale, le président Joseph Kabila a annoncé la convocation d'un dialogue politique national inclusif et a même proposé à tous les acteurs congolais d'engager à l'instant une réflexion sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses pour finalement aller vers l'alternance. Voilà, nous allons terminer, on va conclure cette émission avec vous, madame l'honorable Béatrice Loméa. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette thématique? Est-ce qu'il y a des exemples à suivre parmi des pays qui ont déjà organisé des élections, ou bien il faut que nous poursuivons notre processus avec notre modèle à nous?
Avant de conclure, je voudrais clarifier certains propos. Lorsque les compatriotes disent tout qui est acquis, dit que le gouvernement était fâché pour ce qu'on n'a pas respecté, pour qu'il voulait rester seul, faire des choses. Mais je voudrais rappeler ici que notre pays est un pays souverain et que la MONUSCO, les forces des Nations Unies sont arrivées sur demande de notre pays. Il nous appartient à un certain moment, lorsque nous faisons une évaluation par rapport aux besoins de leur présence, de demander à ce que le nombre soit réduit. Donc il n'est pas question de cacher des choses qu'on voudrait faire à l'absence de la communauté internationale. Mais aussi préciser que lorsque les gens parlent de l'alternance, il ne faut pas croire que l'alternance n'aura de signification que lorsque la majorité quitte et que c'est l'opposition qui arrive au pouvoir. Il peut se faire effectivement que demain nous avons des élections et la majorité conserve le pouvoir, parce que vous n'allez pas oublier que le but de tout parti politique ou d'un regroupement, c'est de conquérir et de conserver le pouvoir et l'exercer au bénéfice de la population. Par rapport à tout ce qui a été dit, je crois que j'ai répondu, mais je crois qu'en guise de conclusion, je dirais, comme je l'ai dit au départ, que c'est vrai, nous avons évoqué les exemples de toutes ces nations de la région de l'Afrique, mais nous devons avoir présent à l'esprit que la réalité congolaise est tout à fait différente de la réalité de ces autres pays. Mais chez nous, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, parce que comme nous le disons toujours, les chefs de l'État lui-même et même la plateforme qui le soutient n'a jamais dit que nous ne respecterons pas la Constitution. Mais nous précisons que nous allons respecter la Constitution dans son intégralité. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent une analyse sélective, une sélection des articles. Nous devons tenir compte du premier jusqu'au dernier article. Mais pour le reste, je crois que nous sommes là, comme nous l'avons dit, nous respectons la loi. À partir du moment où il y a une structure qui est habilitée par la loi à organiser ces élections, nous, en tout cas, nous attendons. Et donc, il n'a pas à donner des qualifications. Je crois que lorsqu'on ne gère pas, on a une autre vision. Mais lorsqu'on gère, vous avez les tableaux de bord et vous avez l'ensemble des situations. Et je crois que les Congolais doivent garder l'apaisement. Nous devons nous dire que c'est vrai, nous voulons des élections, puisque il est de notre droit comme souverain primaire de temps à temps de renouveler ceux qui doivent nous diriger, mais ces élections doivent se tenir dans des conditions qui nous rassurent tous, qui préservent la stratégie acquise et aussi préserver les acquis de la reconstruction que le chef de l'État a déjà annoncé jusque-là.
Madame l'honorable Béatrice Lombeya, vous êtes un des communicants de la majorité présidentielle. Merci d'avoir été de notre
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro. Ben, il ne reste qu'à dire merci à toute l'équipe qui a produit cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la mise en onde. Pierre Lamégé à la réalisation. Jules Pézabongunda au standard. Jean Lungembo a eu le plaisir de coordonner, de présenter cette émission. À très bientôt.